Radio Kapi.
Le journal Blaise Shindani.
Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici d'abord les titres. Lutte contre le virus hémorragique d'Ebola, deux survivants de cette maladie sortent de l'hôpital de Boulapé au Kasaï. Un signe encourageant dans la lutte contre ce virus. L'information confirmée par le directeur général de l'Institut national de santé publique à Radio Okapi. Crise parlementaire en RDC, la société civile appelle les députés à plus de responsabilités et à la stabilité institutionnelle face aux pétitions visant le bureau de l'Assemblée nationale. Elle les exhorte à se concentrer sur les besoins du peuple plutôt qu'à leurs propres intérêts. Désarmement en Ituri, seuls 1400 combattants sur les 20 000 attendus ont déposé les armes. Les coordonnateurs du PDDRSC, Flori Kitoko, invité de la rédaction, analyse les obstacles et les solutions pour accélérer ce processus. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. Encore une fois, bon après-midi à tous. Ce journal commence par la bonne nouvelle. Dans la zone de santé de Boulapé, territoire de Mweka, dans la province du Kasaï, les deux premiers survivants de la maladie à virus Ebola, totalement guéris, ont quitté l'hôpital général de référence de Boulapé hier mardi et sont rentrés chez eux après quelques jours de prise en charge. C'est le directeur général de l'Institut national de santé publique qui annonce cette nouvelle à Radio Okapi. Docteur Dieudonné Mwamba indique que 16 cas confirmés continuent à suivre les soins et qu'à ce jour, plus de 500 personnes ont déjà été vaccinées depuis le lancement de la campagne de vaccination dimanche 14 septembre dernier. Plus de détails avec vous, Alain Irungu-Mushinji.
La communauté de Boulapé, joyeuse, salue par des chants la sortie de l'hôpital des deux femmes complètement guéries d'Ebola. L'une de ces femmes, une infirmière, témoigne.
À toute la communauté, je voulais vous dire que la maladie existe. Moi, je suis la première personne à contracter cette maladie car je suis infirmière dans cet hôpital. Je travaille comme accoucheuse. Mais j'ai attrapé cette maladie. Je ne peux pas cacher. Je me suis rendue le plus vite possible à l'hôpital pour des soins.
Mais quelles sont les mesures préventives contre le virus Ebola? Docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, explique.
Éviter notamment de toucher un malade qui présente les signes d'Ebola, une forte fièvre, des céphalées, des courbatures, des nausées, vomissements et diarrhées qui peuvent être teinté de sang. Éviter de toucher les liquides corporels des malades atteints d'Ebola, notamment toucher ses vêtements ou les ustensiles utilisés par les malades atteints d'Ebola.
Notez que cette guérison est le fruit des soins fournis par le ministère de la Santé, Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé et l'Institut national de recherche biomédicale INRB.
Épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, le chef du groupement Bansweba, une entité administrative du territoire de Mweka, où se trouve la zone de santé de Boulapé, touchée par cette flambée de fièvre hémorragique, tire la sonnette d'alarme. Il appelle le gouvernement à mobiliser davantage de moyens pour faire face à cette crise sanitaire dans une région où les infrastructures de santé sont vieillissantes. Le chef Bidia Kapobe Sylvain a été joint au téléphone par Freddy Bikumbi.
Nous faisons l'effort de ramener les gens qui avaient contacté les corps, les cadavres de la maladie Ebola, les amener au centre de traitement. Mais nous sommes en train de constater que les vaccins ne sont pas en grande quantité. Je profite de cette occasion pour faire un message aux autorités de nous assister avec tous les moyens. Notre hôpital ici, c'est un hôpital, un ancien hôpital de longtemps. Depuis 1924, l'hôpital ne répond pas aux conditions sanitaires comme il fallait. Cependant que cet hôpital accueille beaucoup de malades. Donc, il n'y a pas de conditions sanitaires, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Que le gouvernement nous assiste pour arrêter cette maladie avec des médicaments, c'est très important.
Parlons à présent de ces pétitions contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Des organisations de la société civile appellent les députés à l'objectivité et à favoriser la stabilité institutionnelle. Les pétitionnaires dénoncent une mauvaise gestion de la Chambre basse, un manque de transparence ainsi que plusieurs mois d'arriérés dans les frais de fonctionnement et la couverture médicale des élus. Pour la société civile, les députés devraient mettre en avant les besoins prioritaires de la population plutôt que leurs propres intérêts. Grâce à Mzati Masanzi pour plus de détails.
Pour la société civile Force Vive de la RDC, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est totalement contraire aux attentes des Congolais. Jean Bosco Lalo est son premier vice-président national et porte-parole.
Notre pays est confronté aujourd'hui à des cycles de violences à répétition, à des massacres à grande échelle dans la région, surtout de l'Est, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. On ne comprend pas quel est le mobile réel qui inciterait les députés nationaux en fait de croire que la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale est une solution à la crise que traverse le pays. En tout cas, la population a une priorité. Nous voulons la paix.
De son côté, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, appelle les députés à mener leur démarche en toute transparence pour un climat de paix et à privilégier l'intérêt du peuple au cours de cette session budgétaire.
Nous pensons que les honorables députés feront mieux d'avoir un équilibre réel pour que la gouvernance ne soit pas centrée sur les individus, mais soit centrée sur les institutions et aussi le besoin de la population. Nous voulons que cette session soit consacrée totalement à comment résoudre les problèmes sécuritaires, des besoins des communautés, des infrastructures.
Rappelons que sur les 7 membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, seul le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tchulumbaï et le deuxième vice-président Christophe Mbosso sont épargnés. De ses pétitions.
Signe alors que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu officiellement hier, des mains du secrétaire général de la Chambre basse du Parlement, les copies des pétitions qui visent 5 membres du bureau, y compris lui-même. Par conséquent, le premier vice-président, Isaac Jean-Claude Tchilumbaï, non concerné par les pétitions déposées lundi, convoque les députés cet après-midi pour une plénière. À l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau précise son communiqué. À Kisangani, les victimes de guerre de la province de Tchopo attendent la reprise des activités du FRIVAO, Fonds de réparation des indemnités des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Elles l'ont déclaré hier à la place des martyrs à l'occasion de la restitution par le comité des crises auprès de la base des discussions que leur comité a eues avec le procureur général près la cour de cassation le week-end dernier lors de son séjour à Kisangani. Selon leur président Jean Kaligamire, des révélations et des recommandations ont été faites et formulées à l'attention de leur hôte lors de leur discussion. Les explications avec Jacques Moukonkole.
À la place des martyrs où les victimes de guerre de Kisangani se sont réunies, ces dernières ont appris ce que le comité Kalegamire a dit au procureur général près la cour de cassation le week-end dernier. Ils ont dénoncé l'arrestation jusqu'à ces jours du coordonnateur intérimaire Chansar Borokola depuis plus de 50 jours sans qu'il ne soit présenté devant son juge naturel. En plus, cette opération est intervenue alors qu'une délégation de l'UGF était en train de mener un audit sur la gestion du FRIVAO. Au sujet justement de la gestion de cet établissement public, le comité Kalegamire dit avoir fourni des éléments sur la gestion du comité intérimaire et de son prédécesseur. Au vu de ces éléments, Jean Kalegamire exprime leurs attentes.
Demandons la libération du coordonnateur AI de FRIVAO Chansar Bolukola Osoni pour venir continuer avec les cas. La relance des activités de FRIVAO, pas seulement à Kisangani, mais dans tout l'espace concerné. Poursuivre jusqu'au bout tout celui qui sera impliqué de près ou de loin à la malversation financière.
Rappelons qu'avant de s'envoler pour Kinshasa, Firmin Vondé a déclaré qu'une enquête sera diligentée sur la gestion du FRIVAO. Il n'hésitera pas de mettre la main sur toute personne qui se serait compromise dans cette affaire. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Sud Kivu, la situation est restée tendue hier mardi à Lusengi, dans la collectivité de Wakabango Premier, territoire de Shabunda, en cause des accrochages survenus entre deux groupes armés dits Wazalendo. Selon nos sources, des hommes dirigés par les généraux autoproclamés, connus sous le nom d'Mbeya, ont pris d'assaut les centres commerciaux de Lusengi. Sur place, ces hommes armés sont venus arrêter un opérateur économique qu'ils auraient tenté de dépouiller. Ils se sont ensuite attaqués à un chef local. Face à cette situation, un autre groupe Wazalendo est intervenu, déclenchant de violents affrontements entre les deux factions. Suivez ce témoignage d'un notable du milieu, dont le son a été modifié pour des raisons de sécurité. Il est joint par Ronelli Tibonera.
Quand la population a suivi que les chefs de centre étaient battus, blessés, amenés à l'hôpital, la population est venue pour savoir pourquoi il était bâti. Ces Wazalendo ont tiré beaucoup de balles en l'air pour disperser la population. C'est comme ça que l'information a circulé jusqu'à Kalole. Il y a les Wazalendo de Kalole qui sont descendus pour venir savoir pourquoi ces macaques viennent tirer des balles à Lusengi, qui est un centre commercial. Quand les Wazalendo de Makaku ont appris que ceux de Kalole étaient en route, ils ont fait leur position et puis après à leur rencontre, ils ont commencé à se tirer dessus et c'est beaucoup de balles qui sont tirées. On signale la fuite de la population vers Kalole, du côté de Djankom par là-bas, vers Penekusu et d'autres sont allés vers Kama. D'autres en forêt bien sûr, tous ceux qui ne peuvent pas bouger dans un sens ou dans l'autre.
Un mot d'éducation dans ce journal. À Mbandaka, 140 enseignants associés aux inspecteurs viennent de passer 8 jours de formation sur les nouveaux programmes des humanités pédagogiques rénovés dans la province éducationnelle Équateur 1. Ce programme prévoit une étude post-secondaire de 3 ans pour mieux former un enseignant expérimenté au niveau primaire. La formation a été dispensée par les experts du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté venus de Kinshasa. Cela en collaboration avec l'UNESCO qui a mis en œuvre le projet sous le financement du Partenariat mondial de l'éducation à travers l'Agence française au développement AFD. Des détails avec Askin Zigbia.
L'expérimentation de ce nouveau programme des humanités pédagogiques rénovées s'est faite à travers l'inauguration d'une salle de l'école primaire Bakusu. C'est dans cette école que plusieurs élèves destinés à ce nouveau programme ont été accueillis pour s'en imprégner. Pierre Mukindi, un des formateurs de l'UNESCO, explique la particularité de ce programme que viennent de bénéficier 140 enseignants de Mbandaka.
Alors on a compris que notre système éducatif allait de plus en plus vers la ruine parce qu'il n'y avait pas d'enseignants réellement qualifiés.
En quoi les participants, l'avantage de ce nouveau programme est de rendre l'élève plus compétent dans la vie courante au terme de ses études primaires et secondaires, comme le déclare cet enseignant.
Vraiment, c'est très importante cette formation-là qui vise à mettre l'enfant dans une situation qu'il doit lui-même résoudre dans la vie courante, même s'il n'a pas d'emploi. Il peut lui-même créer son emploi et puis mieux vivre.
Il faut noter qu'en Mbandaka, 8 écoles primaires et secondaires publiques sont retenues pour la phase expérimentale de ce nouveau programme. Selon Alexis Yoka, secrétaire général à l'éducation nationale, les villes de Tchikapa dans le Kasai et de Mbanzangungu au Congo central sont également concernés par ce nouveau programme.
Revenons dans la capitale où la ministre d'État en charge de l'environnement, Marie Nyangé, a lancé un appel à la protection de la couche d'ozone afin de garantir l'avenir de la jeunesse congolaise. Cette déclaration a été faite en marge de la journée internationale pour la protection de la couche d'ozone célébrée le 16 septembre de chaque année. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son message, la ministre Marie Nyangé invite la population congolaise à considérer la préservation de la couche d'ozone comme un investissement dans l'avenir et un engagement concret en faveur de la jeunesse congolaise. Pour ces membres du gouvernement souminois, protéger la couche d'ozone, c'est investir dans notre avenir, c'est aussi offrir à notre jeunesse un environnement sain et des perspectives de développement durable et la fierté de contribuer à une cause universelle. Elle souligne que l'action collective est indispensable pour protéger la couche d'ozone, lutter contre les changements climatiques et préserver notre bien commun, la planète Terre. En appelant à une mobilisation nationale et internationale, Marie Nyangé réaffirme l'alignement de la RDC sur les grandes orientations mondiales en matière de transition écologique et de protection du climat. Le gouvernement de Kinshasa se positionne ainsi comme un acteur incontournable dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion d'une nouvelle économie verte. ouverte. Cours de cette année, la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone est placée sous le thème « De la science à l'action globale ».
Actualité internationale.
La Commission européenne a proposé mercredi 17 septembre de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'Union européenne et de sanctionner deux ministres d'extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu, a annoncé la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. C'est un changement majeur de position que propose l'exécutif européen, choisissant de faire pression sur Israël au sujet de sa campagne meurtrière dans la bande de Gaza.
L'invité.
Près de 20 000 combattants sont attendus en Ituri pour adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, les PDDRSC. À ce jour, à peine 1400 miliciens ont déposé les armes, environ 300 fusils de guerre récupérés. Un résultat jugé insuffisant par le coordonnateur provincial intérimaire qui pointe du doigt le manque de moyens pour sensibiliser et surtout prendre en charge les volontaires. Flori Kitoko est notre invité. Il répond aux questions de Jean-Claude Lokidile.
Flori Kitoko, bonjour.
Bonjour.
Flori Kitoko, quel est l'état des lieux du programme de PDDRCS en Ituri?
Bon, en Ituri, depuis qu'on a commencé, avec 174 jeunes gens qui étaient regroupés à Diango. Ils ont passé plus que 2 ans. Ça fait une année qu'ils sont rentrés dans leur milieu. Nous n'avons même pas les moyens d'aller les rendre visite, voir un peu comment ils vivent. Et après, il y a eu les groupes armés autodéfense au mois de janvier. Et il nous a donné plus de 1393 qui sont démobilisés avec les 4 de Macaron, comme ça les Macarons. C'est à Mabanga. Nous avons fait Mabanga. On a des armées à Katoto. Les jeunes gens de Largou sont arrivés à Mabanga. Plito sont arrivés. Tchoumé, ils sont arrivés. Ils ont déposé les armes. Ils ont leurs Macarons. Ils sont rentrés. Aujourd'hui, nous sommes à 1393 démobilisés. Qui sont dans leur communauté exactement, ils sont là.
Mais avec ils ne sont pas pris en charge.
Ils sont pas encore pris en charge. C'est ça l'inquiétude. Et avec le mouvement qui est encore né en Ituri, il y a des arrestations. Un des mobilisés qu'on va au Laki, il dit non, toi tu es de tel groupe armé. Ils sont arrêtés, on continue à plaider pour qu'on les libère. Et c'est encore inquiétude. Celui qui était au front, il restait là-bas, il mangeait. Il dépose l'arme, il est sérieux, il dit moi je rentre dans mon village. Vous le prenez, vous l'arrêtez, vous le mettez au cachot. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez lui dire pourquoi tu es sorti? Rentre au front. Tout ça sont des inquiétudes. Mais avec les opérations qui sont passées il y a 2 mois ici, 1 mois ici, nous sommes moins à plus de 300 armes que les groupes armés ont remis. Ils attendent la prise en charge.
Maintenant, sans moyen, Flori Kitoko, que vous allez faire comment? Parce que même vos partenaires disent qu'il n'y a pas assez de financement. Quelles seraient, selon vous, les solutions durables en interne ou même sur le plan national pour vous appuyer? Parce que la volonté y est, quoi.
Bon, il n'y a pas de miracle, cher ami. La République...
Est-ce que localement, on ne peut pas trouver des solutions aussi? Par exemple, quels jeunes gens arrêtent avec les conflits armés?
Pardon. Bon, localement, c'est la communication. C'est l'implication des leaders communautaires qui doit sensibiliser les jeunes gens de déposer les armes.
Mais les leaders,
et il faut demander...
Mais les leaders n'ont pas des armes, donc voilà.
Non, les leaders n'ont pas des armes, mais c'est lui qui représente la communauté. Il doit aussi encourager les jeunes gens de déposer des armes, de faire autre chose. Je vous dis ici que c'est lui qui a la volonté de cultiver les champs. Pourquoi il doit avoir une arme? Le partenaire nous dit qu'ils n'ont pas aussi beaucoup de moyens. Mais l'État, la souveraineté de la République... Il faut que l'État se prenne en charge et dire nous mettons le moyen pour le programme PDDRCS. Et le partenaire vient en appui de l'État congolais. Nous, on n'appuie pas les partenaires. C'est le partenaire qui nous appuie. Là, nous avons 1 dollar, il nous ajoute 1 dollar. Et on évolue. Mais si nous commençons à tendre tout entre les mains du partenaire, cher ami, nous allons tourner en rond pendant encore 10 ans. On va pas terminer cette histoire.
J'étais dans un territoire la semaine passée. Il y a un de vos collaborateurs qui avait demandé à ce qui avait, en tout cas, dit à la délégation que le fonds n'arrive pas sur le terrain. Donc, c'est difficile de pouvoir faire avancer ce processus-là. Le fonds est décaissé à un certain niveau, mais ça n'arrive pas sur place. Est-ce que c'est encore là un autre problème qui vous préjudicie? Ouais.
Bon, peut-être il n'a pas eu le courage de vous dire la vérité. C'est pas le fonds n'arrive pas là où il est comme chef d'antenne, où est agent. Les fonds, il n'y a pas de fonds pour les programmes. Il faut qu'on continue à plaider au gouvernement de la République pour qu'on mette des moyens. Il faut vraiment des moyens. Moi qui je vous parle, je suis un ancien du programme depuis 2001. La Banque mondiale nous avait donné 220 millions de dollars avec Conader. Les jeunes gens qui ont encore des armes laissées, ils savent que, à l'époque, un démobilisé qui arrive, il a un peu de dollars, il va à la communauté, on le suit pour les champs, l'élevage, la formation à métier. Mais aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des 774 qui ont fait 2 ans à Diango. Ils n'ont même pas fait de formation à métier. Quelqu'un qui est sorti, nous l'avons encadré, on l'avait demandé de rentrer. Il arrive, il a des problèmes, il est tombé malade, il est mort. Sa femme et les enfants restent avec qui? Où il a attendu, ça ne vient pas, il intègre encore les groupes armés. Pour faire quoi? C'est pour faire la violence, tuer encore. C'est une inquiétude. C'est pour faire la violence, tuer encore.
Flori Kitoko, je vous dis merci.
Merci, cher ami.
C'était notre invité Flori Kitoko qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal parlé qui a connu la coordination éditoriale d'Élisée Chikotachi-Voueta, la supervision d'Alain Irungo-Moshi, Pierre Diassinois, la mise en onde. Vous pouvez encore retrouver ce journal sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.